Vous n'avez rien contre les omelettes?
Non, rien du tout.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon.
Voilà, les ingrédients ont bougé.
J'adore ça.
Des plats à base d'épices.
La recette d'aujourd'hui, c'est les spetzels.
Oh, bon, merci. Vous pouvez déguster ce que je mange.
Why am cooking so good?
Même si vous n'en avez jamais acheté en vrac dans une épicerie bio, vous avez déjà très certainement consommé du sarrasin. C'est simple, il y a de la farine de sarrasin dans les galettes bretonnes, mais aussi dans les crozets de Savoie. Le sarrasin, on le surnomme blé noir, mais ce n'est pas une céréale classique au sens botanique, puisqu'il ne fait pas partie de la famille des graminées. Il s'agit plutôt d'une plante à fleurs qui ne contient pas de gluten, et comme le quinoa, on l'appelle souvent pseudo-céréale, parce que son utilisation en cuisine se rapproche de celle du blé, de l'avoine ou encore de l'épeautre. Pendant longtemps, cette graine croquante au léger goût de noisette a été sous-estimée. Le sarrasin a souvent été vu comme un simple engrais naturel, puisqu'on le plantait souvent à côté de champs de pommes de terre pour profiter de son effet répulsif sur le taupin, un insecte dont la larve détruit les cultures. À cause de son manque de rentabilité, personne n'avait trop envie de se lancer dans la culture de sarrasin en France. Bien sûr, on pourrait se dire qu'avec la consommation de galettes en Bretagne, il y a de quoi avoir besoin constamment de sarrasin. Mais en fait, plus de la moitié de nos besoins en sarrasin est assuré par des produits d'importation, venus de Chine, du Canada et de Pologne. Mais aujourd'hui, les choses changent. Il y a un regain d'intérêt pour le blé noir en France. Déjà parce qu'en 2010, des producteurs et meuniers bretons se sont réunis pour promouvoir une farine de sarrasin bretonne, renforcée par l'indication géographique protégée blé noir tradition Bretagne. Ensuite, parce qu'il y a un public grandissant cherchant à consommer cette pseudo-céréale pleine de vertus pour la santé, entre les intolérants au gluten et les sportifs cherchant à faire le plein d'acides aminés essentiels. Avec son rôle dans la cuisine française, mais aussi japonaise, le sarrasin est une plante aux multiples facettes. En deuxième partie d'émission, j'ai voulu me concentrer sur une recette dans laquelle le sarrasin est un élément clé, les soba. On les trouve de plus en plus facilement dans les supermarchés. La journaliste culinaire Chihiro Masui est venue nous parler de la place qu'occupent ces nouilles dans la gastronomie japonaise, de la fadeur comme qualité gustative, selon elle, et de la sobriété des bouillons.
Je pense que c'est vraiment cette bonne fadeur. Le fan, en fait. Quand on dit quelque chose est fan en français, bon, c'est pas un compliment.
Mais d'abord, nous avons parlé avec Olivier Campardoux, un agriculteur ariégeois qui cultive du sarrasin en France. Ce passionné de sarrasin a également passé un diplôme de maître soba au Japon et ouvert un moulin en ville à Paris.
J'ai une exploitation agricole en bio de 45 hectares qui, pendant 25 ans, a accueilli mon troupeau d'ânes parce que je faisais du lait d'ânes. Et j'ai changé d'activité il y a un an et demi pour cultiver du sarrasin, plante qui était beaucoup cultivée dans les Pyrénées. On cultivait pas le sarrasin qu'en Bretagne, on en faisait dans les Alpes, dans le Limousin et dans les Pyrénées aussi.
Le sarrasin qu'on consomme en France, il est en général importé, c'est ça?
Alors on produit grosso modo de 5 à 10% de notre consommation de sarrasin, un petit peu partout, pas qu'en Bretagne, et on en importe. Le reste est importé de Chine, des pays de l'Est, du Canada. Qui sont des gros producteurs de sarrasin.
Et pourtant, le sarrasin, il me semble extrêmement simple à cultiver.
Alors, le sarrasin, c'est pas simple, c'est magique. La plante, donc, on le sait, c'est un cousin de l'oseille et de la rhubarbe. C'est une polygonacée, donc c'est pas du tout une céréale. On l'a appelé le blé noir par assimilation, mais ça n'a rien de blé. Et c'est une plante qui pousse sur tous les terrains, y compris et qui préfère à la limite les terrains pauvres. Et qui a la particularité de pousser en 3 mois. Donc on sème le sarrasin, et 3 mois après on récolte, avec la difficulté que le sarrasin est gel, donc on ne peut le semer qu'une fois l'hiver passé, et que le sarrasin fait des petits rendements. On est à 10 fois moins que les rendements du blé. Donc une parcelle de sarrasin d'un hectare va donner à peu près de 500 kilos, pour les meilleures parcelles, à 800 kilos de graines.
J'ai aussi lu que le sarrasin, c'est une plante qui est très bonne pour la diversité des sols. Parce que l'assolement en France serait majoritairement donc partagé entre le blé et le maïs. Mmh. Et le sarrasin, donc, ça permet de faire du bien finalement.
Ouais, le sarrasin est un engrais naturel. Donc on s'en sert d'engrais vert. On fait une parcelle de sarrasin. Quand il a quelques semaines, 2 ou 3 semaines, on peut l'enfouir et ça azote les terrains, ça fait un engrais vert fabuleux et qui en même temps nettoie les terrains parce que quand on sème le sarrasin à la volée, Il fait un tapis végétal. Et donc, plus rien ne pousse, comme il pousse très très vite. Ça étouffe toutes les autres plantes. Et donc, c'est aussi un très bon moyen de nettoyer des parcelles.
D'accord. Oui, donc c'est pour ça qu'on dit aussi que c'est une plante nettoyante.
C'est ça.
Qui va pousser de façon tellement resserrée qu'elle laisse aucune place aux mauvaises herbes.
Si on la sème à la volée. Parce qu'en France, on a trop tendance à la semer au semoir, ce qui n'est pas la bonne technique vraiment pour faire du sarrasin.
Et alors, en France, donc, on connaît surtout le sarrasin pour son utilisation dans les galettes, ce qu'on appelle du coup des galettes de blé noir, alors que ce n'est pas du tout une céréale, le sarrasin. Mais on en trouve aussi de la farine de sarrasin en Savoie, dans les crozets, et donc les petites pâtes carrées qu'on peut préparer avec du Beaufort pour faire des croziflettes. C'est très bon, les croziflettes.
C'est ça, c'est ça.
Ailleurs dans le monde aussi, en Lituanie, puisqu'on fait des blinis avec mi-farine de sarrasin, mi-farine de froment, il me semble.
Les vrais blinis russes ne sont à l'origine qu'au sarrasin.
Oui.
Voilà, et on fait des blinis maintenant en France au blé, par exemple.
Oui.
Mais les blinis d'origine sont uniquement au sarrasin. Et on peut faire des choses incroyables. Si on a une bonne farine et une bonne qualité de sarrasin, on peut faire des choses magiques aussi.
D'ailleurs, ça plaît beaucoup aux personnes qui sont intolérantes au gluten.
Le sarrasin, on peut le valoriser de plein de manières que ce soit. C'était un peu l'idée de mon projet au départ pour remettre en culture le sarrasin. C'était explorer les différentes valorisations du sarrasin qu'on n'a pas fait du tout dans notre pays. Et ça commence par les jeunes pousses, par exemple. On peut manger les jeunes pousses de sarrasin. Parce que, je le rappelle, c'est un cousin de l'oseille, de la rhubarbe. Et on peut manger les feuilles quand elles sont en maturité, quand la plante a un mois et demi. On peut récolter les feuilles de sarrasin, les poêler, les cuisiner comme de l'oseille. C'est magnifique et c'est pas du tout valorisé dans notre pays. Et après, on peut aller sur la production de farine, sur les graines décortiquées, où là, on peut faire du sarrasin torréfié, on peut faire du sobacha, qui est de l'infusion de graines de sarrasin, de la farine de sarrasin torréfié, pour faire des préparations incroyables. Et tout ça n'a jamais vraiment été exploré dans notre pays.
Donc en France, en fait, on malmène un peu le sarrasin qu'on a en le transformant un peu rapidement en farine.
Alors on le malmène à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on ne lui prête pas vraiment attention. Moi, c'est ce que j'ai découvert au Japon, où là, c'est un produit noble. Et les Japonais traitent le sarrasin de façon vraiment incroyable, en le décortiquant, le conservant au frigo, à toutes les étapes de la transformation. Et chez nous, c'est un peu la cinquième roue du carrosse, le sarrasin, parce que il n'est pas valorisé, parce qu'il est mal payé, parce que les rendements sont faibles. Donc, c'est pas vraiment une culture qui soit très rémunératrice pour les agriculteurs et les paysans. Et voilà. Et donc, on a in fine des galettes de sarrasin qui sont souvent pas géniales parce qu'elles sont issues de mauvaises récoltes. On a récolté le sarrasin à un mauvais moment. Il va chauffer. Il est mal moulu avec une mouture très rapide intégrale. Et on a, un produit souvent qui est pas génial. C'est des techniques qu'on a abandonnées depuis très longtemps, mais font au final un produit de très grande qualité.
Pour préparer notre rencontre, j'ai regardé un reportage au JT de France 3 sur une asso d'agriculteurs bretonnes qui s'appelle Blé Noir Tradition Bretagne. Et alors eux, le principe, c'est que c'est dans les années 80, face aux importations donc principalement de Chine, du Canada et des pays de l'Est, ils se sont dit « on va se réunir et on va faire notre propre sarrasin » en suivant un cahier des charges, qui a donné lieu aussi, du coup, à une IGP, donc une indication géographique protégée. Est-ce que toi, tu suis aussi un cahier des charges qui serait le tien ?
Mon cahier des charges, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le semis à la volée, la récolte à la lieuse, le séchage du sarrasin sur pré pendant une semaine ou 15 jours, et ça, c'est un cahier des charges qui donne au final un produit de très grande qualité et non contaminé au gluten, et surtout un produit mûr et sec qui aura une qualité adéquate. Quoi.
Alors, qu'est-ce que tu as appris exactement lors de ton voyage au Japon ? C'était pour avoir un diplôme de maître soba, c'est ça ?
Voilà, donc moi, l'idée, c'était d'explorer les différentes valorisations du sarrasin. Donc, ce qui m'intéressait dans le Japon, c'était deux choses principalement. C'était les décortiqueuses, parce que la clé de la valorisation du sarrasin, c'est le décortiquage. On enlève l'enveloppe, cette enveloppe noire, pour ceux qui connaissent le sarrasin, permet de faire un sarrasin décortiqué avec lequel, là, on peut partir dans plein de directions au niveau valorisation. Donc, on n'a pas de fabricant de décortiqueur en France parce qu'on n'a pas eu l'habitude de décortiquer. Et au Japon, ils ont deux fabricants de petits matériels adaptés à des petites exploitations. qui permet de valoriser le sarrasin en décortiqué. Donc c'était principalement ce que j'étais allé voir, et aussi passer mon diplôme de maître soba pour apprendre à faire les pâtes traditionnellement avec le hachoir japonais, voir un petit peu comment ils travaillaient la pâte de sarrasin, et également toute cette transformation avec cette, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette conservation au frigo et le fait que le sarrasin rancit très très vite. Et donc il faut être très très prudent quand on conserve le sarrasin, surtout l'été et en période chaude et humide comme on a en ce moment, pour éviter que le sarrasin rancisse et donne un goût particulier, souvent ce goût que les gens n'aiment pas dans les galettes de sarrasin, c'est souvent un sarrasin qui a subi des problèmes un peu climatiques quoi, et de conservation.
Parce que ce qu'on aime aussi dans la farine de sarrasin réussie, du coup, c'est son petit côté un peu noisette aussi.
Ouais, bien sûr, mais pas trop acide. Voilà, on a ce côté noisette, et si on est sur des goûts trop acides, c'est que voilà, il y a un problème au niveau de la conservation, et au niveau de la vie de la graine jusqu'à la farine. Voilà.
Ouais. J'aimerais bien qu'on revienne ensemble sur les propriétés nutritives en fait du sarrasin, puisque on en parle donc comme d'un ingrédient hyper intéressant pour les personnes qui ne supportent pas le gluten. Mais au-delà de ça, c'est aussi un ingrédient très riche en protéines végétales complexes qui est plutôt recommandé.
Voilà, le sarrasin contient toutes les vitamines, les oligo-éléments qu'il y a dans la viande, par exemple. Donc c'est un des aliments de prédilection et complet pour les végétariens, par exemple. C'est plein d'antioxydants, le rutinol, le quercétol. C'est un coupe-faim aussi, ça régule un petit peu la faim. Et c'est vrai que c'est un aliment qui est à plein de titres, qui est vraiment complet et vraiment hyper hyper intéressant quoi. Voilà, sur des variantes comme la farine de sarrasin torréfié, on a des produits voilà, qu'on peut travailler à froid, sucrés ou salés, et qui sont qui sont très nutritifs et qui intéressent beaucoup les sportifs, les gens qui font entre autres du crossfit, c'est très à la mode, et les randonneurs de haut niveau qui se nourrissent de farine de sarrasin torréfié mélangée avec de l'eau en version sucrée ou salée.
Ah oui, d'accord. Oui, parce qu'en fait, il y a tous les acides aminés essentiels dans le sarrasin. Donc pour nos auditeurs et auditrices qui ne savent pas exactement ce que sont les acides aminés essentiels, en fait, c'est ce qui compose les protéines, donc des éléments essentiels pour nos processus biologiques. Et les acides aminés essentiels, ce sont ceux que le corps ne peut pas synthétiser lui-même. Et donc, on est obligé de les apporter à notre organisme via notre alimentation.
Et il y a un indice glycémique très faible aussi qui intéresse les sportifs aussi.
Donc là, on vient de parler de ta casquette d'agriculteur dans le sud de la France. Mais à Paris, tu as aussi une autre casquette. Tu es fondateur d'un endroit qui s'appelle Atelier Soba. Donc un charmant endroit tout en bois.
Et que tu connais bien.
Que je connais exploré. Bien, oui. Parce que donc j'ai découvert cet endroit l'année dernière en me baladant dans le 11e un soir, rue de Popincourt. Et là, donc, je vois une grande vitrine lumineuse avec derrière ce qui se présente comme un moulin urbain. Et ça m'a interpellée parce que je me suis dit donc qu'il y a un meunier en ville. Qu'est-ce qui se passe?
L'idée, c'était de faire vraiment un circuit court avec la fabrication de la farine sur place et la transformation quasiment en temps réel, si tu veux, des sobas et des autres produits. Et donc l'idée c'était de quand je suis allé au Japon, j'allais pour le matériel, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais aussi j'ai découvert les moulins. Les Japonais font de la farine de sarrasin avec des petits moulins.
Des moulins en granit.
Des moulins de granit qui tournent très doucement, qui respectent la qualité de la farine, qui ont des petits rendements, mais qu'ils multiplient quand ils veulent faire des grosses productions. Et ils ont l'assurance d'avoir toujours la même qualité de farine. Donc j'ai construit ces moulins, inspirés des moulins japonais, avec quelques modifications pour apporter un peu plus de look et d'efficacité. Et ces moulins, depuis, je les vends également, puisqu'ils sont spécifiques au sarrasin et qu'on n'a pas vraiment de matériel dédié au sarrasin dans notre pays. Et c'est vrai que les moulins en vitrine, ça a été un petit peu le fer de lance du projet à Paris, parce que ça a interpellé. C'est vrai qu'on ne voit plus, c'est comme le lait de la vache, quoi. On ne sait pas trop d'où ça vient. Donc les parents, les enfants découvrent les moulins et réapprennent à l'origine de la farine, quoi.
Ouais. Oui, voilà. C'est toujours agréable de savoir exactement comment et fabriquer ce truc qu'on voit principalement déjà tout fait, quoi.
Voilà.
Et donc, il me semble que la farine de sarrasin que tu produis, donc c'est de la farine de sarrasin bio et décortiquée, ultra fine aussi. Donc, ce qui est différent de la farine de sarrasin qu'on trouve sur le marché, qui est plutôt plus grossière.
Celle que tu trouves sur le marché, la farine de sarrasin française, elle est moulue très, très, très vite. Donc, c'est des moulins qui tournent 10 fois plus vite que les miens. Et en sarrasin entier. Donc, on a en fait, dans la farine, elle est très sombre. Elle a l'enveloppe et la graine, l'enveloppe qui n'apporte pas vraiment, qui n'a pas grand intérêt et qui, surtout dans la fabrication des sobas, perturbe l'amalgame. C'est-à-dire que il faut, pour faire les sobas, une farine très, très pure. Pour faire puisque les sobas sont des spaghettis au sarrasin, il faut que ça tienne. Et donc, il faut une farine très, très pure et très fine pour faire un produit de très grande qualité. Mais également, avec cette farine unique que je produis à l'atelier, on peut faire des galettes magnifiques, très faciles à réaliser. Des blénis, on en a parlé tout à l'heure, on peut faire des blénis avec une technique que j'ai développée sans levure, sans œufs et sans temps d'attente et sans lait. Uniquement sarrasin, eau et sel. Et voilà, on fait avec cette farine vraiment des produits incroyables.
Et donc, en plus de préparer, de faire cette farine sur place tous les jours, tu proposes aussi des cours, des ateliers où un petit groupe de personnes peut venir apprendre à fabriquer des sobas. Donc, c'est un cours auquel j'ai vu.
Ce que tu as fait il y a un an.
Ouais. Mais c'est vrai que moi, je garde un souvenir ému de la texture du pâton, en fait, qui est absolument lisse. Et ensuite, tu nous as bien montré le coup de main qu'il fallait avoir avec le hachoir. Parce que l'idée, c'était qu'une fois le pâton constitué, il fallait faire avec le hachoir des tranches les plus fines possibles. Tout à l'heure, tu as dit que c'était un peu, les sobas sont un peu les spaghettis du Japon. Moi, je me rappelle que sur le moment, tu me vannais et que tu me disais « Mais alors, tu nous fais des tagliatelles, là ?»
Ouais, mais au début, c'est toujours un peu ça, parce qu'on s'emballe sur le décalage du hachoir. Et c'est vrai que on fait les premières sont souvent des sobas grossières.
Ouais.
Mais voilà, au fur et à mesure de la soirée, on commence à s'approprier la technique et le hachoir. Et ça s'améliore généralement, ce qui a été ton cas, Émilie, je pense.
Oui, je crois. Ouais.
C'est amélioré en fin de parcours, voilà, parce que voilà, on travaille deux pâtons, on fait les sobas de A à Z, pâtonnage et découpe, et ensuite je prépare déjà des pâtons tout faits et étalés pour se perfectionner sur la découpe. Voilà.
Et donc tu nous sers aussi des verres de saké, ce qui aide peut-être à la dextérité. Hein,
Le open bar sur le saké, ça aide beaucoup à approprier le hachoir, en règle générale.
On vient de le voir avec Olivier Campardou, il y a plein de façons de consommer du sarrasin. On peut en manger les feuilles à poêler comme de l'oseille ou infuser ses graines torréfiées pour en faire un sobacha. Près des studios de Nouvelles Écoutes, il y a un café qui s'appelle Otium et qui propose un très bon sobacha d'ailleurs. Après avoir discuté de la culture de sarrasin en France, nous avons voulu aborder son pendant japonais du côté des sobas. Pour nous parler de ces nouilles japonaises de couleur brunâtre, nous avons reçu Shihiro Masui, autrice culinaire d'origine japonaise.
Le soba, pour moi, c'est... Ben, déjà, c'était la nouille préférée de ma mère. Et ce qui est assez atypique, parce que nous sommes... notre famille est de la région du Kansai, c'est-à-dire la région de Kyoto, Osaka, Nara, Kobe. Et dans cette région-là, on mange surtout la nouille udon, qui est la nouille blanche épaisse. Et le soba, c'est pas vraiment de chez nous. Mais c'était la nouille préférée de ma mère. Alors, pourquoi ? Je pense que c'est parce que c'est une nouille qui est très délicate en termes de goût. Ce qu'on aime dans le soba, quand on aime le soba, c'est vraiment le parfum. Et c'est pour ça que quand on veut vraiment déguster un soba, on le mange plutôt froid, parce que ça ne dénature pas le parfum. Alors après, évidemment, on le mange chaud en hiver, on le mange froid en été. Il y a aussi la situation climatique ou la température, enfin bon, tout ça, bien sûr. Mais... Alors, il y a une chose qui est assez rigolote au Japon, c'est qu'aujourd'hui, enfin depuis quelques années déjà, il y a ce qu'ils appellent au Japon des sobaliers. Alors, ça vient de sommelier, sauf que ce sont des professionnels du soba, des experts de soba. Donc, il y a des groupes de sobaliers qui vont déguster des sobas un peu partout et qui notent ou qui évaluent. Et quand ils vont tester le soba, ils le mangent toujours froid.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Donc, C'est vrai que le soba, si on veut vraiment goûter, par exemple, si on veut vraiment évaluer la qualité d'un soba ou le déguster vraiment, bah c'est froid.
D'accord.
C'est pas chaud.
Un peu comme quand on veut tester la qualité d'une pizzeria, on va plutôt commander une pizza margherita, donc ouais. Vraiment l'étalon, le classique. Et donc pour les sobas, c'est vraiment la version froide qui est privilégiée. Alors.
Oui, absolument, oui.
D'accord. Mais j'imagine que comme les sobas, c'est souvent un mélange de farine de sarrasin et de blé, même si ça peut aussi être 100% de la farine de sarrasin,
oui.
On mange ça froid pour pouvoir bien sentir les arômes du sarrasin, le parfum.
Oui, quand on parle du parfum du soba au Japon, c'est vraiment un parfum de la graine crue.
Ouais.
Alors que quand on parle de parfum de sarrasin en France ou par exemple dans les cuisines de l'Europe de l'Est, c'est plus le parfum du sarrasin soit grillé, soit cuit. Et c'est vraiment pas du tout la même chose. Ce n'est vraiment pas du tout le même parfum. Et je soupçonne que c'est pour ça qu'on en a fait une nouille, nous.
D'accord.
Et que, par exemple, les Russes ne font pas de nouilles de sarrasin,
ouais.
À ma connaissance en tout cas. Et ce qui est magique, quand on tombe sur un vrai artisan de soba et qu'il fait le soba, il y a cette odeur de farine, mais pas de la farine seule, cette odeur de mélange de farine de soba et d'eau qui a ce parfum extrêmement subtil. Extrêmement délicat, mais qui est absolument merveilleux. Et c'est ça qui est bon dans le soba. Quand on parle de soba au Japon, il y a tellement de différents sobas. Mis à part le ratio de farine de blé, farine de sarrasin, bon, ça c'est quelque part, c'est personnel. Moi, je préfère quand même quand il y a un peu de blé, parce que ça donne une nouille qui est un peu plus souple, un peu plus ronde en bouche. Le soba 100% sarrasin, elle est un peu plus sévère comme nouille, mais c'est un peu plus rêche, un peu plus sévère.
Un peu plus cassant.
Ouais. Alors, cassant, oui, mais pas quand c'est fait par un artisan qui sait vraiment ce qu'il fait. Le soba, la nouille soba, a la particularité d'être vraiment une nouille qui demande de l'expertise. Moi, je fais des udon chez moi, c'est facile. Enfin, c'est facile, c'est pas très dur. Mais le soba, j'y suis jamais arrivée. Et ça demande de l'expertise. D'où on va vraiment parler du maître artisan soba,
oui.
Qui fabrique le soba. Pas celui qui fait la cuisine, mais qui fait vraiment la nouille avec la farine et l'eau et éventuellement la farine de blé. Le soba 100% sarrasin est très à la mode depuis quelques temps. Mais après, c'est vraiment une question de goût. Hein. C'est vraiment une question de goût. Selon l'artisan, que ce soit 100%, 50%, 70%, 80%, 90%, selon l'artisan, la nouille sera complètement différente. Le goût, la texture, le parfum, tout sera vraiment très différent. Je pense qu'il y a quelque chose qui va au-delà de la technique pure. C'est un peu comme quand on fait le thé. Le thé, vous avez l'eau chaude. Ma grand-mère était professeure de thé, de cérémonie de thé donc, et je faisais le thé avec exactement les mêmes feuilles de thé, la même eau, la même théière, tout pareil. Tout pareil. Et je n'obtenais jamais le thé qu'elle faisait, qui était vachement meilleur. C'était très vexant d'ailleurs, mais bon voilà. Et je pense que le soba, c'est un peu comme ça. Et c'est, je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça dans la vie, dans la cuisine, dans les cuisines françaises. Mintam, elle fait une pâte brisée qui est absolument merveilleuse. Pourtant, les ingrédients sont les mêmes. Voilà. Donc, entre ce que fait l'un ou ce que fait l'autre, il y a toujours une différence.
C'est la beauté de la cuisine, parce qu'on peut avoir une liste d'ingrédients en commun, et puis des étapes vraiment à lire sous les yeux, et pour autant, il y a peut-être une magie, quelque chose qui va se passer dans la façon d'attraper les ingrédients, de les incorporer.
Oui.
Le
coup de main, ouais. Je pense que ça doit être une accumulation de toutes petites choses inconscientes, invisibles, et ça fait une somme de différence. Mais oui, et le soba, c'est ça. C'est vraiment très, très, comment dire, symbolique de cette différence de la main. Ouais.
Oui. Alors, dans le soba, quand on prend un mélange de farine de sarrasin et de farine de blé, en général, la farine de sarrasin va surtout avoir le rôle de la structure et du parfum, tandis que la farine de blé va apporter de l'élasticité,
oui,
à l'ensemble.
Oui.
Quelle est la texture idéale, selon vous, des sobas? J'ai lu sur votre blog qu'il fallait que ce soit, selon votre goût, ni trop spaghetti, ni trop cassant.
J'ai dit ça, ah bon ?
Ouais.
Oui, encore une fois, c'est un goût personnel, hein. Mais pour moi, j'aime quand même qu'il y ait une certaine souplesse. Parce que, vous savez, en Asie, et ça, c'est pas que les Japonais, mais tous les Asiatiques aspirent les nouilles.
Hein, tout à fait.
Alors c'est pas très poli en France, mais enfin, on l'aspire, on ne mâche pas la nouille. Et moi, comme j'ai grandi en France, j'ai l'habitude de mâcher, de mastiquer. Et on me regarde, on me dit, mais t'as vraiment une drôle de façon de manger ton soba. Ça n'a pas l'air bon quand tu manges un soba. Et j'avoue, oui, bah oui, je comprends. Mais, et donc, il faut que ça glisse. Il faut que ça glisse en bouche. C'est vrai que la farine de blé aide à donner ces textures plus souples, légèrement plus élastiques, plus glissantes. Mais après, ça dépend de ce qu'on en fait. Parce que si, par exemple, vous faites un soba chaud, c'est-à-dire dans une soupe chaude, avec par exemple du canard, là je trouve que le soba 100% se marie mieux.
Mmh.
Donc ça dépend ce que vous en faites aussi, hein. La cuisson du soba doit être vraiment à la seconde près, c'est-à-dire donner une mâche al dente. Ça, c'est sûr. Parce que sinon, ça devient pâteux et puis après, ça se délite. Par contre, le soba 100% sarrasin donnera une nouille qui est un peu plus rustique dans la texture et, alors j'ai pas envie de dire rugueuse, mais très légèrement rugueuse. Voilà. Alors, c'est ce qu'on aime ou pas.
Ouais.
Voilà.
Donc, la cuisson forcément al dente, selon
forcément,
vous.
Forcément, oui.
Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on sort les soba de l'eau, c'est bien de les passer dans de l'eau froide pour stopper la cuisson ?
C'est indispensable.
Indispensable même ?
Indispensable, oui.
D'accord. Et dans le service maintenant, qu'est-ce que vous préconisez ? Alors, on peut servir ça chaud ou froid. Froid, donc, avec le tsuyu ?
Oui, tsuyu veut dire tout simplement, on va dire bouillon. Déjà, vous servez froid ou chaud ? Ça, c'est le premier choix. Hein. Donc, en été, personne au Japon ne mange un soba chaud en été et vice-versa en hiver. Si vous servez froid, d'abord, vous le servez souvent dans des paniers en bambou pour égoutter.
Comment on appelle ces paniers en bambou déjà ?
Zaru. Et d'où le mot zaru soba, qui est le soba froid qui est présenté dans un panier.
Oui.
Voilà. Et le tsuyu qui est comment dire, servi dans un petit dans une sorte de tasse. C'est assez petit, c'est une tasse que vous pouvez diluer selon votre goût avec l'eau de cuisson du soba. Dans ce tsuyu, souvent ce qu'on va mettre, les ciboulettes émincées, du gingembre râpé ou du wasabi râpé selon. Qu'est-ce qu'on met d'autre ? Je crois que c'est tout, hein. Après, vous pouvez accompagner le zaru soba, donc le soba dans son panier, avec du tempura.
Oui.
Moi, c'est mon soba préféré. ou avec plein d'autres choses, hein. Plein de choses. Mais le soba reste le principal.
D'accord.
Voilà. Alors ça, c'est froid. Quand c'est chaud, vous faites un bouillon avec le tsuyu dilué et pareil. Un peu comme un feu ou comme n'importe quelle nouille asiatique, vous mettez des choses dessus, voilà.
Parlons du soba gaki. Donc, il s'agit d'une pâte de farine de soba que l'on cuit dans de l'eau chaude ou alors avec laquelle on mélange, en de l'eau chaude et qui se déguste avec du wasabi, de la sauce soja, c'est bien ça ?
Voilà, c'est ça.
Et alors, donc, vous dites sur votre blog, non sans humour, je trouve, il me reste toujours à découvrir en quoi c'est bon.
Oui, c'est ce que j'étais en train de penser. Le soba gaki, c'est quelque chose que j'ai découvert assez tardivement dans la vie, déjà. Donc, je n'ai pas grandi avec. Alors, je me dis, soit c'est quelque chose, si on grandit avec, on aime parce que y a plein de choses qui sont pas très bonnes, mais qu'on aime parce qu'on a grandi avec. Donc, est-ce que ça fait partie de ces choses-là ? Ceci étant, je pense que les vrais amateurs de soba pur et dur doivent aimer ça parce que, justement, ça... Comment dire, ça isole quelque part le parfum du soba.
Ah oui, d'accord.
Je pense.
Ça après, sent le sarrasin, alors c'est ça ? On sent.
Oui, mais le sarrasin, par exemple, vous savez, on trouve du cacha en France.
Oui.
Le cacha, c'est du sarrasin grillé, si j'ai bien compris. Et c'est pas du tout ce parfum-là. C'est vraiment le parfum ultra fade du soba, qui n'a pas été grillé, ni torréfié, ni rien. Et c'est vrai que sans sauce soja et sans wasabi, je trouve ça assez imbouffable. Enfin, oui.
En tout cas, d'apparence, j'ai l'impression que ça ressemble à quand on prépare du seitan à la maison. Ou alors une polenta, qu'on se retrouve avec un bloc comme ça de pâte,
oui,
qu'on peut couper, trancher au couteau.
C'est le même principe. Moi, ça me fait penser à... Le nom m'échappe. C'est un plat africain. Je crois que c'est de la farine de manioc ou quelque chose.
C'est du foufou ?
Je sais pas.
Le foufou, c'est de la farine de manioc en bloc, comme
ouais,
ça. Et on cuit ça à la vapeur, ou alors on le coupe pour le faire revenir dans de la sauce.
Moi, ce que je connais, c'est béninois. Et c'est gris. Non, c'est peut-être pas le manioc. Il y a rien. Et c'est un accompagnement comme le riz ou comme je sais pas des pâtes. Et je crois que c'est de la farine de manioc ou quelque chose mélangée avec de l'eau chaude et dans un bol. Et après on renverse le bol, donc ça a une forme un peu arrondie. C'est gris, mais j'aime beaucoup parce que je trouve que ça se marie très bien avec le plat africain qui va avec. Mais le sobagaki, ça me fait vraiment penser à ça, c'est-à-dire, comment dire, une espèce de masse, très fade, et qui intrigue parce qu'on se demande pourquoi on le mange. mais oui, ça a ce côté des bonnes choses très rustiques, en fait. Je pense que c'est vraiment cette bonne fadeur. Le fan, en fait, quand on dit quelque chose est fan en français, bon, c'est pas un compliment.
Ouais.
Mais je pense que il y a quand même la notion de la bonne fadeur, de la fadeur qui est bonne.
Ouais.
Et c'est ça.
Vous en parlez très bien à un autre moment sur votre blog aussi de la fadeur à propos donc des sobas. Vous dites que là où les autres cuisines asiatiques sont fortes en goût et en parfum, le Japon privilégie beaucoup la fadeur. Donc, vous comparez ça, par exemple, en miroir, à la brochette saté, le canard laqué, le curry de lait de coco, la soupe feu, qui ont beaucoup de goût. Et vous dites qu'à l'inverse, au Japon, donc, y a cette recherche, parfois, du fade. Et vous vous demandez si c'est une forme de résignation d'un pays pauvre en termes de ressources et une culture, du coup, qui se serait développée isolée pendant plusieurs siècles. Et donc, oui, vous pensez que la fadeur, c'est aussi quelque chose qui est une notion importante donc dans les sobas.
Évidemment, si on compare notre façon de manger le soba à d'autres nouilles, ben, comme le feu, comme les nouilles chinoises, oui, c'est très fade. Hein c'est très fade. Parce que la façon fondamentale de manger le soba, c'est le soba froid avec le tsuyu, un peu de ciboulette, un peu de gingembre et basta. Et là, vous avez la nouille, le bouillon, ciboulette, gingembre, il y a 4 ingrédients. Dans le bouillon, il y a, allez, on va dire, 4 ingrédients, ça fait 8. Comptez combien d'ingrédients il y a dans un feu.
Ouais, tellement d'épices,
je sais pas,
c'est tellement
a,
de...
Il y en a, je ne sais pas, 80, enfin, c'est énorme. Et donc, forcément, alors, fade n'est pas le mot, mais forcément, oui, il y a une certaine... On dit souvent que la culture japonaise est très épurée, et c'est ce qui est apprécié.
Une forme de sobriété aussi.
Oui, une forme de sobriété, une forme de pauvreté aussi, donc. Et par rapport à ça, oui, je pense que le soba, c'est très japonais, à savoir un archipel de volcans où il y a très peu de terrain fertile. Et donc, on a mangé ce qu'on a pu, je pense. Oui, je pense que c'est lié, oui.
Alors, il y a une tradition le 31 décembre,
oui,
autour des sobas. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ?
Traditionnellement, nous ne fêtons pas Noël parce que nous ne sommes pas chrétiens. Et donc, la grande fête familiale de l'année, c'est le 1er de l'an, qu'on fête pendant 3 jours. Donc, le 1er, le 2 et le 3 janvier. Et le soir du 31 décembre, pour passer l'année, on appelle ça littéralement passer l'année, on mange le soba. Donc, littéralement, ça s'appelle le soba pour passer l'année. Et donc, dans la nuit du 31 au 1er, ou le soir du 31, tout le monde mange des soba. Après, vous les mangez comme vous voulez. Mais ça, c'est une tradition que je maintiens chez moi à Paris. avec mon mari qui est français, ma fille qui est moitié française, moitié japonaise, mais c'est quelque chose qu'on fait tous les ans, on mange le soba le soir du 31.
D'accord. Comment on l'accommode, ce soba?
Ben, ça, c'est chacun comme il veut, mais comme c'est en hiver, là, pour le coup, en général, c'est chaud, c'est dans un bouillon. Si vous êtes, parce que bon, si vous êtes japonais, il y a de fortes chances que vous travaillez hein, le 31 décembre, même si c'est un jour, en théorie, de fête. Donc, si vous êtes au boulot, ben, vous allez quand même commander, on va vous commander un bol de nouilles chaudes. Sans grand chose dessus, puis vous mangez. Chez nous, on fait, parce que j'aime ça, donc je fais le soba, le bouillon, et je fais toujours des tempura avec. Donc je fais un énorme plat de tempura. Et alors, quand vous mangez le soba, la soupe chaude avec le soba, vous prenez le tempura, qui est donc croustillant, vous mettez dans le bouillon, et évidemment, on se dit, mais si c'est croustillant, pourquoi le mettre dans un bouillon chaud? Parce que ça va devenir tout mou. Mais c'est ça qui est bon. C'est le côté croustillant, mais un peu imbibé, qui est vachement bon. Donc, bah, chez nous, c'est ça.
D'accord.
C'est tempura, crevettes, des légumes, poissons, enfin plein de choses en tempura, avec le soba en soupe chaude. Oui, alors, une chose concernant le soba du 31 décembre, il y a quand même un symbolisme là, c'est que on mange les soba dans l'espoir que l'année sera aussi fine et longue que la nouée.
Fine, qu'est-ce que ça veut dire que
ben,
soit
parce
fine?
Parce que ben, vous savez, les Japonais, on est des travailleurs, on est dans un pays pauvre, donc que l'année soit fine.
Qu'elle soit fluide, qu'elle glisse bien.
Ouais, je sais pas. Ça doit être le côté résigné du japonais. C'est que bon, ben, on va pas aller jusqu'à espérer une année bien épaisse, bien riche. Donc bon, qu'elle soit fine, mais longue. Mais
d'accord.
Longue, voilà. Ça symbolise la longévité, la longueur, l'endurance. Voilà, quoi.
Oui, d'accord, je vois. Fine, mais longue, alors, du coup.
Voilà, surtout longue.
Merci à Olivier Campardou et Shiro Masui de nous avoir donné de leur temps pour disserter sarrasin. Ce que j'aime avec cette plante, c'est qu'on peut en manger une journée entière sans avoir l'impression d'avoir été redondant. Des galettes bretonnes à midi et des soba le soir. Pas de quoi se lasser du blé noir. Amis bretons et bretonnes, d'ailleurs, ne nous en voulez pas de ne pas avoir trop parlé de galettes, on se réserve ça pour un autre épisode. Je vous quitte avec une petite anecdote. Un agriculteur m'a un jour soufflé qu'un bon moyen de reconnaître la graine du sarrasin, parmi d'autres graines, c'est de chercher la forme d'un casque de chevalier sarrasin, soit une coiffe pointue en forme de tétraède. Mais bon, j'ignore si cette remarque a un fondement historique. Bouffon est une émission de nouvelles écoutes portée par moi, Émilie Leistari, montée et mixée par Thomas Decourt, programmation par Cassandra de Carvalho, coordination Laura Cuissard. À mercredi prochain!